France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Mon invitée ce matin n'est pas veuve, mais elle est joyeuse, surtout lorsqu'elle chante le chef-d'œuvre de Franz Léard, ce qui ne l'empêche pas d'être aussi une grande tragédienne. J'ai la joie d'accueillir Véronique Jans avec son arc à multiples cordes, du baroque à la mélodie française, en passant par l'opéra et l'opérette. Elle est à partir de ce soir la veuve joyeuse à l'Opéra Bastille, dans la mise en scène de Georges Lavelli. Véronique Jans, à ce micro, le temps d'aller dans une de ces fêtes foraines, nombreuses au mois de septembre, avec leur palais des merveilles et leur maison hantée.
Entrez, entrez, c'est ici la galerie des phénomènes. Enfin seulement, entrez, entrez. C'est la galerie des phénomènes, tiens-moi la main, mon petit Jean. 3 francs seulement, c'est une aubaine, nous en aurons pour notre argent. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, papa? Ça, c'est le célèbre Boustou, qui mange du fer du caoutchouc. Hier, il a fait la dinette avec les pneus de sa bicyclette. Il mange aussi des gros cailloux, des pavés en bois et des clous. Ne laisse pas traîner un marteau, il l'avalerait comme un gâteau. Il n'est pas inscrit chez le grémier, il a son tour chez le quincaillier. C'est la galerie des phénomènes, tiens-moi la main mon petit Jean. 3 francs seulement c'est une aubaine, nous en aurons pour notre argent. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, papa? Ça, c'est le derviche tourneur. Il tourne sur lui même une heure. Et puis sur des rasoirs, il danse et se transperce avec une lance. Ensuite, il se met dans un cercueil. On s'apprête à porter son deuil. Mais il sort frais comme une alouette et tourne encore comme une girouette. Maintenant, il faut dire ce qu'il faut. Il était tourneur chez Renault. C'est la galerie des phénomènes. Tiens-moi la main, mon petit Jean. 3 francs seulement, c'est une aubaine. Nous en aurons pour notre argent. Audi, qu'est-ce que ça, papa? Ça, c'est le coin des animaux. Le poney qui a une tête de veau. Le taureau qui est né qu'une chatte. Le fameux mouton à 5 pattes. Regarde comme il est dodu. Il lui faut des soins assidus. On le surveille matin, n'est-ce pas, à cause des gars du marché noir. Sur lui, s'il mettait l'embargo, 5 pattes, ça leur ferait 5 gigots. C'est la galerie des phénomènes. Tiens-moi la main, mon petit Jean. 3 francs seulement, c'est une aubaine. Nous en avons pour notre argent. C'est joli, hein? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, ça ne va pas, tu ne dis plus rien, Jeannot, voyons. Oh, non. Papa, ça ne m'abuse pas du tout. Des phénomènes, il y en a chez nous. Maman qui n'a plus de savonnette, à la pierre qu'on se lave tes chaussettes. Ma tante a une barbe de sapeur. Mon oncle fume des feuilles de chou-fleur. Et toi, avant hier qui criais, je ramène 3 carottes sans ticket. Quand ta grand-père qui était fou, maintenant il est devenu zazou. C'est notre galerie des phénomènes. Papa, rentrons à la maison. À notre époque, c'est un coup de peine. Y'a que les gosses qui gardent leur raison.
L'irrésistible Georgius dans cette chanson qui mélange les attractions de foire et l'évocation du marché noir, puisque c'est une chanson de 1943 avec l'excellent orchestre de Pierre Chagnon. Autant vous le dire, Georgius, pour moi, c'est le plus grand fantaisiste français, avec Dranem, Bourville et Fernandel, disons, pour en citer 4. Et je me suis réjoui de voir que Marianne Mélodie nous proposait un nouveau double CD avec beaucoup de raretés de Georgius. Ça vient de sortir. Je me promets d'ailleurs de faire d'ici la fin de l'année une émission spéciale consacré à ce grand artiste qui était Monsieur Guy Bourg, dit Georgius, né en 1891 et mort en 1970. Yankee Doodle 1962, et certains d'entre nous, comme notre réalisatrice Christine Amado ou moi-même, se rappellent leurs jeunes années où on regardait à la télévision Histoire sans parole, dont cette musique était le générique. C'était le temps des histoires sans parole, mais maintenant nous allons écouter des histoires avec parole, des histoires racontées et chantées par mon invité qu'on retrouve dans une seconde.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et oui, car une fois n'est pas coutume, je ne suis pas à la Maison de la Radio, mais à l'Opéra Bastille, où je suis parti à la rencontre de cette merveilleuse artiste qui chante à partir de ce soir La Veuve Joyeuse, dans une reprise de la mise en scène de Georges Lavelli. Celui-ci d'ailleurs passera nous dire quelques mots. Et voici donc une incursion dans le domaine de l'opérette pour cet invité aux multiples registres qui nous proposait également au printemps dernier un merveilleux disque de rareté de l'opéra français. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin donc Véronique Gens. Bonjour Véronique Gens.
Bonjour.
Vous m'avez enchanté avec ce disque d'opéra français rare. Là, c'était un extrait d'une œuvre de Niedermeyer.
Ah, mais c'est très gentil, c'est très gentil.
Stradella, compositeur oublié, opéra oublié. Vous avez fait ça avec Hervé Niquet en Allemagne, à Munich.
Oui.
Comment c'est arrivé ce projet?
C'est un projet qui n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide évidemment très précieuse du Palazzetto Bruzane qui fait toutes ses recherches sur cette musique française du 19e.
Absolument.
On travaille beaucoup ensemble en ce moment et on s'entend très bien et vraiment j'ai trouvé une nouvelle famille, j'ai trouvé un nouveau répertoire, j'ai trouvé un confort vocal que je cherchais depuis des années en fait. Et ce disque a été longuement mûri, longuement, on a fait beaucoup de recherches sur la musique. En plus, il fallait trouver des choses qui correspondent à mon tempérament.
Des œuvres de Bruno, de Benjamin Godard, d'Henri Février, de Saint-Saëns, beaucoup de choses totalement inconnues. Hein.
Exactement, non mais je vous rassure, je ne les connaissais pas non plus. Il n'y a que Alexandre Radvicki qui peut connaître ce genre de trucs, ou son frère Benoît aussi éventuellement, mais c'était vraiment l'inconnu total. Mais je leur fais absolument confiance et j'étais sûre qu'on allait trouver des choses vraiment intéressantes et surtout des choses qui tombent pile poil dans ma voix. Parce que, comme vous savez, je ne suis pas un vrai soprano, je suis pas un vrai mezzo, je suis quelque chose entre les deux. Et la musique de cette époque est vraiment parfaite pour ma voix et pour ma
vocalité. Ce répertoire français du 19e siècle, de la fin du 19e, il vous convient particulièrement bien.
Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai mis du temps avant de comprendre ça. Et c'est grâce, encore une fois, au Palazzetto Bruzane que j'ai réalisé que j'étais vraiment faite pour cette musique et que ma voix tombait vraiment parfaitement. Allez, ne me demandez pas pourquoi, mais ça a été écrit comme ça, pour des voix qui sont très centrales, qui montent un peu, qui descendent un peu, mais qui sont quand même très, très installées dans le centre. Et c'est tout à fait mon cas. C'était vraiment le cas aussi de cette fameuse fameuse Falcon, oui, qui a eu cette carrière, voilà, qui a laissé son nom malgré cette carrière si courte, à un type de voix, et je pense que je fais partie de cette famille de voix.
Le drame, si vous aimez tant ce répertoire, c'est que les directeurs d'opéra ne le programment jamais.
Voilà, vous avez tout compris, donc on se fait plaisir, on fait des 10, mais peut-être que ça va venir petit à petit.
Ça va venir, vous croyez ?
Je pense que les gens sont intéressés d'entendre des choses qu'ils n'ont jamais entendues, tout simplement, et découvrir d'un nouveau répertoire, et pourquoi pas découvrir une nouvelle musique. Voilà, c'est vrai que la musique française a très mauvaise presse en France, malheureusement, ouais. Ça c'est pas de moi.
Moins à l'étranger. Savez,
beaucoup moins à l'étranger. D'ailleurs, on a fait tous ces disques, Proserpine, Dante, Godard, enfin toutes ces choses, on les a faites à l'étranger, donc avec ce partenariat avec l'orchestre de la radio de Munich, c'est pas un hasard, voilà. Ouais. Bon, on a quand même fait un disque avec l'orchestre de la radio à Paris, heureusement. Mais voilà, c'est comme ça, me demandez pas pourquoi, j'y suis pour rien, je subis ça comme tout le monde, mais voilà, je fais quand même de la musique que j'aime et avec des gens que j'aime et qui ont envie de faire cette musique comme moi.
Alors nous, en tout cas, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors exceptionnellement, on n'est pas à la Maison de la Radio, on est venu vous voir à l'Opéra Bastille où vous chantez La Veuve Joyeuse. C'est pas la première fois, d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure.
Oui.
La Veuve Joyeuse, alors encore un autre aspect de Véronique Gens, on vous a connu baroqueuse, mozartienne, tragédienne, musique française, maintenant musique légère. Ce sont des vies successives ou des vies parallèles que vous souhaitez toutes mener de front?
C'est vraiment même pas un plan de carrière ou quelque chose de décidé longtemps à l'avance, c'est la vie qui fait les choses comme ça. J'ai toujours fait confiance à mon instinct. À une certaine époque, je sentais que ma voix avait besoin de musique baroque. J'ai fait beaucoup, beaucoup de musique baroque, comme vous savez, pendant une bonne quinzaine d'années. Ensuite, c'était assez logique d'aller vers le répertoire mozartien. J'en ai fait beaucoup, beaucoup partout. Ouais. Et je sens que maintenant, j'ai envie de passer à autre chose, tout simplement pour ma santé mentale, je crois, et ma santé vocale aussi. Je pense que c'est important. Tant que la voix l'autorise, pourquoi ne pas essayer des choses différentes? C'est vrai que quand j'ai chanté toute cette musique baroque, tout le monde me disait « Oh, mais t'es folle de te lancer dans du Mozart !» Et pourquoi pas? Ma voix était capable de le faire, donc pourquoi pas? J'ai envie d'essayer d'autres choses, et pourquoi pas chanter cette Veuve Joyeuse, et pourquoi pas? Voilà, ça va être le mot du jour, pourquoi pas?
Pourquoi pas? On va y revenir tout à l'heure longuement à la Veuve Joyeuse, mais je vous propose, Véronique Gens, d'abord un petit coup de rétroviseur. On va remonter justement dans vos jeunes années, vos débuts, enfin vos jeunes années qui continuent bien sûr.
Oui, n'est-ce pas?
et on va surtout remonter à vos premiers enchantements musicaux, je crois, avec ce bailero extrait des Chants d'Auvergne par Kirite Kanawa. un extrait des Chants d'Auvergne de Joseph Canteloube par Kirite Kanawa. Vous avez découvert cette musique très jeune,
oui,
Véronique
Jans ? Oui, il se trouve que je suis auvergnate d'origine.
Ah, vous croyez orléanaise ?
Voilà, enfin, orléanaise, mais bon, mes racines sont vraiment en Auvergne. Et c'est vrai que quand j'ai découvert cette musique complètement par hasard, parce que j'aimais beaucoup, enfin, j'aime toujours Kirite Kanawa et j'écoutais beaucoup ses enregistrements. Et je suis tombée sur cette musique que j'ai trouvée, qui m'a beaucoup parlé, quoi. Probablement à cause de mes racines. Enfin, je sais pas, les bergers, les bergères, ça sent le fromage, ça sent, on voit les montagnes, les ruisseaux. J'ai adoré ce disque.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 15-20 ans, oui, j'ai pris beaucoup mon temps et dans ma famille, on n'écoutait pas beaucoup de musique classique, vraiment.
Pas beaucoup. Non, donc quoi, des chansons ?
Ouais, enfin, comme tout le monde, et puis j'étais à la chorale quand même, mes sœurs aussi, on chantait beaucoup. C'était vraiment du plaisir, juste du plaisir. Et puis petit à petit, je me suis intéressée à tout ça et surtout, je suis tombée sur j'avais un prof de chant à Orléans, Jacqueline Bonardo, m'a très regrettée. Jacqueline Bonardo, qui connaissait bien William Christie. Voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que j'ai été lancée.
Mais voilà. Cela dit, on sait combien les premiers enchantements musicaux nous suivent et les chants d'Auvergne, du coup, vous les avez vous-même.
Oui, j'avais très envie de les enregistrer, encore une fois, parce que je sais pas, cette musique me parle et je trouve ça magnifique. Puis ça a l'air de rien, des petites mélodies comme ça, mais en fait, c'est hyper compliqué, hyper chiadé. L'orchestre est très, 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 très fin. Il y a des milliers d'instruments, il y a un piano, c'est beaucoup plus qu'un orchestre classique. Et c'était vraiment une belle aventure. Alors, on a fait ce premier volume et puis après, ça
avec
a tellement bien. Voilà, c'est
voilà.
Ça. Et ensuite, ça a tellement bien marché. On nous a dit, mais il faut faire le reste. Voilà. Et puis, on a trouvé un triptyque aussi qui n'est pas resté dans l'histoire, mais.
De Canteloube, toujours.
De Canteloube, toujours. Voilà. C'est le deuxième volume de nos chants d'Auvergne. Mais encore une fois, c'est une musique que j'aime beaucoup. Et dès que j'ai l'occasion de la chanter, je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir. J'ai pris des cours d'auvergnat parce qu'évidemment, d'un village à l'autre, on parle pas le même auvergnat. Enfin, bon, ça a été très. Moi, j'ai fait ça vraiment bien, bien, bien. Et j'avais très envie, voilà, de le faire bien.
C'est vrai qu'il a même fait un opéra qui s'appelle Vercingétorix, je crois, Monsieur Canteloube.
Et oui, Vercingétorix, Clermont-Ferrand, voilà.
voilà. Bon, en tout cas, Véronique Jans, voilà, c'est moi aussi, j'étais très heureux de commencer avec Kirite Kanawa. Je ne sais pas si vous aviez d'ailleurs, quand vous avez justement rejoint William Christie, les Arts Florissants, à la première époque d'Attis, vous aviez déjà l'idée que vous seriez cantatrice.
Ah, mais pas du tout, mais pas du tout. Ça va horripiler beaucoup de jeunes chanteuses qui se battent, qui passent des auditions, des concours, qui rament, parce que je sais que maintenant c'est vraiment comme ça et c'est difficile. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup moins de place et beaucoup moins de travail qu'avant. Mais moi, j'ai jamais décidé de devenir chanteuse. J'étais partie, moi, j'ai fait des études absolument
d'anglais,
classiques.
Agrégée.
Voilà,
d'anglais.
Je voulais devenir interprète dans les grands meetings internationaux. Voilà, c'était ça l'idée. Et voilà, et j'étais quand même au conservatoire à Paris dans la classe de William Christie et en même temps à la Sorbonne. Enfin, j'étais bien occupée à ce moment-là. Et surtout, William, qui fait confiance toujours aux très jeunes chanteurs, m'a tout de suite lancée dans la carrière. J'étais là pour Attis, ce miracle qu'a été Attis. Et comme j'ai dit toujours, dans l'orchestre, il y avait Marc Minkowski,
voilà.
Christophe Rousset, il y avait
Hervé Niquet.
Voilà. Enfin, c'était vraiment. J'avais beaucoup de chance d'être là.
Tous vos futurs chefs étaient là autour de
Exactement.
Vous.
Exactement. Ils ont tous créé leur propre ensemble. Petit à petit, ils ont fait beaucoup de disques. Et voilà, il n'y a pas de meilleure carte de visite qu'un enregistrement. Et à l'époque, on faisait beaucoup, beaucoup de disques. Et je faisais avec Hervé, avec Jacobs, avec Hervé, avec Minkowski, avec tout le monde. Quoi. Et Malgoire aussi, j'étais là.
Ouais. Alors justement, vous dites qu'il y a deux hommes qui m'ont lancé dans ce métier. Ça a été d'abord William Christie et Jean-Claude Malgoire.
Oui.
Et c'est peut-être plutôt lui qui vous a conduit vers Mozart, d'ailleurs.
Exactement. Oui. C'est lui qui m'a proposé mon premier chérubin. Et je lui dis, oh, non, mais Jean-Claude, là, tu rêves, je suis incapable de faire ça. Il me dit, monsieur, fais-moi confiance, ça va bien se passer. Alors, effectivement, c'était à Tourcoing, dans son atelier lyrique de Tourcoing, qui est vraiment un endroit où on travaille tellement d'une manière tranquille. C'est tellement agréable de travailler à Tourcoing. J'aime beaucoup aller chez eux là-bas. Et voilà, ça s'est fait de manière pas très facile en ce qui me concerne, parce que j'avais jamais fait de rôle solo, en fait, vraiment de rôle important, surtout un rôle comme Chérubin, qui est quand même un rôle, quand on est une femme, c'est pas toujours facile de jouer un jeune garçon, mais j'étais grande, j'étais embarrassée avec mes bras, avec mes jambes, et ça s'est très très bien passé. Je pleurais tous les soirs dans ma baignoire à l'hôtel Ibis de Tourcoing, tellement j'étais désespérée. Mais Jean-Claude, mais non, ça va bien se passer. Il a eu raison, ça s'est très bien passé.
Et alors après Mozart, vous l'avez beaucoup chanté, vous avez dit dans une interview que peut-être Donna Elvira, c'était le rôle qui vous ressemblait le plus,
oui,
d'une certaine
plus
façon,
chanté, je crois,
que vous avez
plus
chanté.
Mais j'aime beaucoup Elvira, elle est vraiment très touchante et elle a ce côté jusqu'au boutiste là que j'aime beaucoup et qui me convient très bien. Et elle aime Don Giovanni, malgré tout il est odieux avec elle, il se comporte comme un salaud, mais bon, elle y croit et elle va jusqu'au bout et j'aime beaucoup ce personnage, vraiment. Oh.
Véronique Jans, mon invitée dans le rôle de Donna Elvira de Don Giovanni, c'est l'enregistrement du festival d'Aix-en-Provence sous la direction de Daniel Hardin. Véronique Jans qui nous reçoit, si j'ose dire, ce matin
c'est
à l'Opéra Bastille, voilà, chez elle, voilà, où elle va chanter bientôt La Veuve Joyeuse, avec son mélange, évidemment, dans l'opérette plus qu'ailleurs, de théâtre et de musique. Et j'ai envie de vous demander, justement, quand vous avez franchi les étapes de la carrière du baroque à Mozart et de Mozart à pas mal d'autres rôles de tragédienne, la dimension théâtrale s'est très vite imposée à vous autant que celle du chant ?
Absolument, je crois qu'on ne peut pas être chanteuse sans être actrice. On a la chance, nous les chanteurs, d'avoir la musique, mais d'avoir aussi le texte. Et par rapport à un violoniste ou à un pianiste, enfin, à mon avis, c'est plus difficile pour eux de parler aux gens. Justement, ils trouvent une autre manière de le faire, probablement. Mais nous, en tant que chanteurs, on a vraiment une mission, c'est de transmettre un texte et de transmettre... Oui, un texte et un état d'âme et des situations. Et en tant que chanteuse, il faut absolument jouer la comédie aussi, sinon ça passe pas. Quoi,
et si pour bien le faire, donc on fait confiance aux metteurs en scène, on travaille avec eux, on les écoute, on discute beaucoup quand on appelle Véronique Jans, je crois.
On discute beaucoup, oui. Et puis moi, je suis vraiment un bon petit soldat. Comme on dit, je suis prête à faire beaucoup de choses, il suffit que je sois convaincue. Si je suis pas convaincue, par contre, j'ai beaucoup de mal à faire semblant. Mais j'ai fait des choses très extrêmes dans ma carrière. Tout le monde dit « Ah bon, t'as fait ci, t'as fait ça ?» Oui, pourquoi pas? Si on arrive à me convaincre, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui sont très controversés, mais qui ont, ma foi, bien réfléchi à leur sujet et qui savent vous convaincre, oui, pourquoi pas?
A priori,
pas.
Vous préférez plutôt la mise en scène d'époque ou la mise en scène...
Vous savez, il y a longtemps que j'en ai pas fait.
Très,
oh là là,
très transposé, très dingue et très décalé.
C'est maintenant, ça devient des exceptions. Les mises en scène d'époque, il y en a vraiment de moins en moins. On fait des choses très modernes. Alors, il y a des opéras pour qui ça fonctionne bien, mais d'autres... C'est vrai que Don Giovanni, vraiment, alors lui, c'est vraiment, il supporte tout. Je crois que Don Giovanni supporte des horreurs, des choses beaucoup plus claires. Il peut tout supporter. Les autres, Mozart, je ne suis pas sûre, mais vous savez, on en voit. On en fait des choses.
Il y en a même qui supportent mal. Je pense à Gardiner ou à d'autres qui se révoltent un peu contre
les metteurs en scène. Ils ont raison. Mais nous, en tant que chanteurs, je crois qu'on ne peut pas vraiment se révolter. On peut juste donner notre avis et essayer de faire du mieux qu'on peut. Mais quelquefois, on nous met dans des situations qui sont vraiment... pas facile à assumer, quoi. Et être convaincant quand on fait un truc qu'on n'aime pas, c'est pas facile, quoi.
Alors, à l'autre bout du métier, si j'ose dire, il y a la scène, il y a le théâtre, et puis il y a l'intimité de la mélodie, et de la mélodie française en particulier. Ça, c'est aussi autre chose de très important pour vous depuis maintenant beaucoup d'années, avec ce répertoire, avec notamment Reynaldo Hahn, qui n'est pas celui qu'on entend le plus souvent, mais que vous défendez beaucoup, ainsi que tous ses contemporains.
Pour être complète, si je puis dire, il faut être capable de faire toutes ces choses différentes. Effectivement, extraverti quand on fait de l'opéra, mais très intime quand on fait des mélodies françaises, être capable de chanter les nuits d'été, être capable... Voilà, je pense que c'est très important faire des disques aussi, c'est encore une autre facette du métier. Mais les mélodies françaises, en tant que française, je prends ça comme une mission, enfin un devoir de défendre cette musique. Elle est sublime, on a des auteurs français qui sont magnifiques, des textes magnifiques. Pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas en faire profiter les gens? C'est vrai que Reynaldo Hahn a eu une très mauvaise presse pendant des années, pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas développer maintenant. Mais je trouve que c'est vraiment injuste et il y a des choses vraiment magnifiques dans Reynaldo Hahn qui sont beaucoup plus fines que ce qu'on veut bien imaginer. Et ce disque de mélodie française qu'on a fait avec Suzanne Manoff il y a quelques années maintenant, je me suis battue pour faire ce disque parce que personne ne veut un disque vraiment de mélodie française, surtout avec des choses inédites en plus, pour faire des récitals dans des salles d'opéra ou de concert avec que de la mélodie française, c'est très difficile. Aussi, on me dit toujours, vous voulez pas rajouter un petit Schumann ou un Schubert?
C'est vrai.
Oui. Non, je suis désolée.
Sauf en Angleterre ou en Australie.
Voilà, ou au Japon. Dans des endroits comme ça, où les gens, vous lisez le texte sur leurs lèvres, enfin, c'est incroyable. À Wigmore Hall, où on est invité régulièrement, on est vraiment tellement heureuse de jouer là-bas, de chanter là-bas. Les gens connaissent tout par cœur, quoi. C'est vraiment impressionnant. Enfin bon, tout ça pour dire que les mélodies françaises sont très importantes pour moi dans ma carrière. Alors on me dit, pourquoi vous chantez pas du Lied et des trucs? Non, je pense qu'il y a des Allemands et des gens qui font ça bien mieux que moi. Oui, je pourrais, bien sûr, pourquoi pas. Mais honnêtement, j'aime mieux me concentrer sur la mélodie française.
Vous voulez travailler comment? Il y a des... trucs de style, des modèles, des...
Je crois pas, je travaille ça de manière très très simple, exactement comme je travaillais la musique baroque ou quand je travaille n'importe quoi d'autre, je crois que la chose, il faut vraiment lire le texte et comprendre le texte et savoir de quoi on parle. Et ensuite, il faut se laisser guider, tout est dans la musique, tout est dans le texte, tout est là.
Et la complicité avec un pianiste.
Voilà, la complicité aussi. On a essayé de me marier, si je puis dire, avec des pianistes divers et variés. Vraiment, je me sens très très bien avec Suzanne Manoff et... je crois qu'elle aussi, on n'a même pas besoin de répéter, ou très peu, on se sent, on se connaît, il peut rien arriver avec Suzanne, elle est incroyable, elle est là, elle respire avec vous, c'est vraiment un métier d'accompagner un chanteur, ça n'a rien à voir avec le métier de pianiste de concert, c'est vraiment autre chose. Et je vois que les pianistes de concert, ça les barbe d'accompagner les chanteurs, et inversement, les pianistes qui accompagnent les chanteurs n'ont pas envie de faire du récital, des choses comme ça, c'est vraiment deux choses différentes, et on a besoin de cette complicité pour faire de la musique ensemble. D'ailleurs, je dis toujours, on est un duo, on n'est pas une chanteuse avec sa pianiste. Et quand on est allé recevoir, d'ailleurs, je vais le dire, je suis très fière de ce Gramophone Award qu'on a reçu avec ce disque-là, c'était vraiment pour nous, on ne s'attendait pas du tout à ça. Quand on m'a donné la récompense, j'ai dit, mais il va falloir la couper en deux parce que Suzanne la mérite vraiment autant que moi. C'est vraiment, voilà, rien que d'en parler, je suis très émue, c'est vraiment un duo.
Vous avez continué d'en enregistrer des mélodies rares, il y en a tellement dans le répertoire français.
Voilà, on fait toujours les mêmes, c'est dommage. Bah alors il faut toujours accrocher les gens avec des choses qu'ils connaissent un peu, je comprends, ça les rassure. Mais pourquoi pas en profiter pour leur donner des choses nouvelles et découvrir des choses qu'ils connaissent pas bien.
Néer, une des études latines de Reynaldo Hahn, enregistrée par Véronique Jans et Suzanne Manoff, un très beau disque que je vous recommande. Alors d'ailleurs, ça nous amène tout de suite à la Véronique Jans, à la suite de notre échange, puisqu'on sait combien Reynaldo Hahn aimait l'opérette, et particulièrement Offenbach, qu'il avait bercé, qu'il chantait d'ailleurs lui-même très très joliment. On est ici, je le rappelle, à l'Opéra Bastille, pour La Veuve Joyeuse. Vous n'avez pas fait beaucoup de musique légère, mais vous avez dit aussi, je me rappelle avoir lu, finalement, j'ai l'air peut-être trop sérieuse et c'est ma voix qui fait qu'on ne me donne jamais des rôles d'andouille alors que j'aime beaucoup ça.
C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on projette de vous une image. Enfin voilà, c'est toujours... quand on connaît les gens, on se rend compte qu'ils sont pas forcément l'image des couvertures des disques, justement. Je suis pas quelqu'un de spécialement tragique dans la vie de tous les jours, ni pessimiste, ni je crois pas. Et pourquoi pas faire des choses drôles? C'est vrai que mon type de voix correspond plus à des choses plus graves et plus tragiques, effectivement.
Oui, d'ailleurs, vous avez fait ces trois volumes avec Christophe Rousset, des grandes tragédiennes depuis Lully jusqu'au 19e siècle.
Je me sens vraiment chez moi, c'est vrai, mais ça veut pas dire que je pleure toute la soirée après en rentrant à la maison. Mais pourquoi pas faire des choses plus graves? Quand j'étais petite, je faisais toujours le clown. Enfin, j'étais réputée pour être le clown de la maison. Bon, peut-être ça s'est un peu calmé, ça s'agit avec les années, avec les responsabilités. Mais pourquoi pas, encore une fois. Et j'ai fait très peu d'opérettes.
D'ailleurs, c'est là encore, ça nous ramène à la bande d'Atis. C'est peut-être bien Marc Minkowski qui vous a emmené le premier dans une de ses petites aventures discographiques. Et peut-être scénique aussi avec Orpheus.
Non, j'avais pas fait la scène, j'avais fait juste l'enregistrement. Oui, donc j'étais un peu rajoutée là au dernier moment. Mais c'était il y a quelques années, ça. Mais le plus récent pour moi, c'était la Belle Hélène à Genève il y a quelques années. Là où c'était parler et chanter en alternance, c'est vraiment pas facile quand on n'a pas l'habitude, c'est vraiment un sacré challenge.
Ça, c'est un travail très spécifique.
Ouais, on a l'impression qu'il faut juste parler comme d'habitude. Non, pas du tout, parce que non seulement ça passe pas, mais en plus on comprend pas ce que vous dites. C'est vraiment deux choses différentes.
Mais on le fait aussi dans le baroque, ça.
On le fait dans le baroque, c'est vrai, mais moins quand même. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Ouais. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et c'est vrai que c'est cette veuve joyeuse ici, maintenant que je la fais en allemand, c'est un challenge de plus, avec le texte parlé en allemand aussi. Donc, c'est vraiment
beaucoup
de nouveautés.
Justement, alors, la Belle Hélène, bon souvenir quand même.
Ouais. Oui, c'était sympa. Ouais. Bon.
Mais ensuite, première veuve joyeuse avec Macha Makeyev en 2006 à Lyon.
Ouais.
Et là, donc, c'était vraiment votre apparition dans un grand rôle d'opérette en français. Hein.
En français, et c'était une mise en scène très très subtile, très fine, comme fait toujours Macha Makeyev, avec des petites choses. Et il y avait toute son équipe de comédiens qui étaient là avec elle. Elle les emmène beaucoup avec elle, et donc le texte avait une part très très importante. Et on en a rajouté, délayé. Enfin bon, elle avait fait, et c'était vraiment la part du texte était très importante.
En plus, cette version française est très légitime. D'abord, elle est très bonne.
Oui.
Ensuite, l'œuvre. On le sait, vient d'une pièce française, se déroule à Paris.
Exactement, donc... chez Maxime, c'était ça. Donc, c'était absolument légitime, comme vous dites, ouais.
Voilà. Ben, justement, ça m'amusait. Je sais pas si vous, ça va vous amuser. Vous avez peut-être poussé des cris d'horreur. Mais vous savez, j'adore les vieux disques. Je sais pas si vous écoutez les chanteuses d'autrefois, d'avant-guerre.
Non, j'ai du mal.
Ce qui était le chant français autrefois.
J'ai du mal, ouais.
Ah ben, justement, tiens. Je vais vous faire écouter un petit extrait de La Veuve Joyeuse, par André Baugé et Ninon Valin. La grande Ninon Valin dans le rôle de l'œuf. Vous me direz très librement comment vous...
D'accord.
C'est tellement différent du chant d'aujourd'hui.
Oui, sûrement.
Ninon Valin et André Boget, deux grandes stars du chant français d'avant-guerre. Véronique Jans, ça m'intéressait de vous faire réagir sur ce style de chant qui a longtemps été celui du chant français.
On chante plus comme ça, effectivement, mais c'est très touchant d'entendre ça. Et le texte est tellement désuet, quoi. C'est tellement... Ou ça date quand même, hein, ça date.
Ouais.
Mais et là, dans la version allemande, en fait, c'est le contraire. C'est lui qui commence et c'est elle qui chante après. Là, c'est pas tout à fait la même chose.
Voilà.
Mais c'est, je trouve ça très touchant, en fait. C'est vrai que la façon d'articuler les mots, c'est
très articulé,
très articulé,
très compréhensible.
Très compréhensible. Mais on chante plus comme ça maintenant.
Qu'est-ce qui a changé ? Moi, j'arrive pas à définir quelle est la différence dans la technique de chant de cette époque et celle d'aujourd'hui.
On demande pas la même chose aux chanteurs. On leur demande. Là, la voix est très devant, très très focus, très très accentuée devant. Maintenant, on demande beaucoup plus de profondeur,
d'ampleur.
Beaucoup plus d'ampleur, de rondeur. L'esthétique a complètement changé.
C'est vrai.
Étonnant. C'est très étonnant. Ouais.
En tout cas, oui, c'est vrai, c'est une école de chant qui aujourd'hui a disparu. C'est toujours joli de réécouter ça. Même si vous n'écoutez pas tellement d'autres enregistrements.
Non, en fait,
vous préférez pas vous laisser influencer.
C'est même pas ça. C'est juste que j'ai beaucoup de mal à écouter mes enregistrements parce que je suis très exigeante avec moi-même et je peux pas m'empêcher d'être exigeante avec les autres aussi. Donc, je suis jamais détendue quand j'écoute un disque de chanteur. Je suis toujours en train de il devrait faire ci. Et vraiment, pour moi, écouter des chanteurs, c'est travailler encore. Enfin, je peux pas m'empêcher d'analyser.
Ah oui, c'est ça.
C'est insupportable, hein, je suis désolée, c'est comme ça, mais voilà, donc pour moi, le vrai repos, c'est de ne pas écouter de musique, en fait.
Donc, vous avez fait La Veuve Joyeuse, Véronique Jans, en 2006 à Lyon, en français,
oui.
Et puis, je ne sais pas si c'est Stéphane Lisney ou en tout cas l'Opéra Bastille, vous a proposé de la refaire ici même, en allemand, dans la production de Georges Lavelli.
Oui, tout à fait. Oh oui, non, je suis ravie.
Ça fait quoi de passer de l'un à l'autre, comme ça?
Mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
C'est apprendre un nouvel opéra, quoi, avec tout ce texte. Bon, évidemment, la musique est la même, mais en plus, 2006, c'était il y a quelques années, j'ai un peu oublié, mais c'est vraiment commencer à zéro et d'autres partenaires, une autre mise en scène, tout ce texte et c'est c'est comme réapprendre quelque chose de nouveau.
Et alors, puisque nous sommes à l'Opéra Bastille, avec vous, Véronique Jans, on a la chance d'avoir Georges Lavelli, qui vient également de nous rejoindre, qui est là avec nous ce matin, à quelques heures donc de la première de cette reprise d'une Veuve Joyeuse, qui a maintenant une longue histoire, Georges Lavelli.
Oui, parce qu'il a été créé en 1997, effectivement. Et puis ça a été repris aussi en 98, par la suite en 2002, et puis 2012,
voilà.
Effectivement. Donc c'est la cinquième reprise de cette production.
Une mise en scène comme ça, qu'on reprend avec le metteur en scène, sur place, si j'ose dire, ça évolue ou il s'agit simplement d'essayer de refaire la chose au millimètre à chaque fois?
Écoutez, ça évolue évidemment dans certains aspects qui sont prévus auparavant, mais ça n'évolue pas, disons, dans ce qui est la base...
La construction.
De la construction, oui, parce que, par exemple, je ne peux pas dire, écoutez, je me suis trompé, j'avais imaginé un espace qui n'était pas celui-là, et maintenant, je voudrais faire ça. Ça, ils ne seront pas d'accord.
Mais est-ce que chaque nouveau chanteur ou cantatrice, comme Véronique Jans, apporte quelque chose de nouveau
absolument,
au spectacle?
Absolument, oui, absolument. Et ça, c'est certain. Je veux dire que je ne suis pas un spécialiste de l'opérette, mais c'est pas une opérette, Aleja et La Veuve Joyeuse. Pour moi, c'est un grand opéra.
Ouais.
Et c'est pas seulement que la musique soit intéressante, qu'elle soit plus qu'intéressante, qu'elle soit sensible, qu'elle soit drôle, qu'il y ait de l'humour, qu'il y ait de la force, qu'il y ait de l'angoisse aussi là-dedans. Ça, c'est la conséquence aussi d'une lecture très intelligente de ce livret qu'avait fait à l'époque Aleja. Et qui a une actualité aussi, parce que l'histoire d'un couple, c'est un élément, qui est un élément capital. Je dirais, ça peut se débattre sur tous les plans, je dirais, pas seulement familier, philosophique, etc. Mais il y a d'autres points de vue qui interviennent, c'est-à-dire il y a un regard social aussi, qu'on ne peut pas le dissimuler, parce qu'il est dans la pièce. C'est une femme qui revendique la condition d'être... une femme du peuple.
Ouais.
Bon, mais elle est millionnaire.
Alors, on va écouter tout de suite, comme on a fait avec Véronique Jans tout à l'heure, un extrait de la version française, alors de La Veuve Joyeuse. Là, c'est la scène les femmes, chez Maxime. Et voilà, c'est dans une production des années 50. On en écoute quelques minutes.
C'est femme que chaque femme est, qu'elle soit à tout son phare.
Vierge folle ou vierge sainte, Jeanne d'Arc ou Pitifard.
De son flamme, de son flamme,
c'est parfaitement différent,
c'est les pensées de l'âme
ou de son tempérament.
Celle-ci féline comme chatte, miaou, miaou, petit mimi, veut que son fol amant la flatte comme ça, comme ceci.
Celle-là préfère au con la batte, et même elle vous dit merci.
À bout de moi ou de sa ratte, comme ça, comme ceci.
Un peu de baiser plein d'ivresse, d'autres de savantes caresses,
qui lui font pousser des cris.
Ah oui, tout à
mais toute femme ou maîtresse, qu'on soit laid comme lui.
Ouais. Qu'on soit joli
comme moi.
Oh, 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 ah,
on les prend avec des espèces comme ça, comme ceci.
Depuis qu'Ève écoutant le serpent séduisit cette bonne patte d'Adam, l'homme ne sait jamais ce que trame. Cœur de femme,
femme, femme, femme, femme,
elle change du soir au matin. Hier ne ressemble pas à demain. Pas moyen de comprendre les cœurs féminins. On n'y fera jamais rien, rien, rien.
Depuis qu'elle écoute le serpent, c'est ici cette bonne patadon. L'homme ne sait jamais ce que trame. Cœur de femme, 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 femme. Elle change du soir au matin. Hier ne ressemble pas à demain. Pas moyen de comprendre le cœur féminin. On n'y fera jamais rien, rien, rien.
Depuis qu'elle écoute le serpent, cette bonne patte d'Adam,
femme,
l'homme ne sait jamais ce que trame.
Femme, femme, femme,
femme, femme, femme, femme, elle change du soir au matin. Hier ne ressemble pas à demain. Pas moyen de comprendre le cœur féminin. On n'y fera jamais rien, rien, rien.
Le Septuor marche du deuxième acte de La Veuve Joyeuse. Alors là, c'est l'adaptation française de Caillavé et Robert de Flair. Vous vous êtes posé la question de la langue pour monter cette œuvre qui est mi-parlée, mi-chantée à Paris, Georges Lavelli, parce que après tout, l'opérette, ça peut se donner en langue originale ou en langue traduite.
Oui, c'est vrai, mais je le trouve très bien en allemand. Enfin, je veux dire, ça a été comme ça qu'il a été créé. Qu'il a été créé, et c'est comme ça qu'il a vu Lehár, non ? Surtout les compositeurs. Donc, je crois que c'est un élément capital. Bon, ouais. Mais
vous n'êtes pas contre les traductions.
La musique n'est pas la même, à peu près, parce que c'est certainement qu'il y a certaines choses qui sont modifiables,
ouais,
et qui peuvent aussi être un élément de discussion. Je ne sais pas, les compositeurs n'étant plus vivants, peut-être les chefs peuvent se permettre, si c'est un chef très, très intéressé à la production, peut se permettre de faire certaines modifications par rapport à la langue. Non ?
Véronique Jean, j'imagine qu'entre le monde théâtral de Macha Makeyev dans la version française et celui de Georges Lavelli dans la version allemande, c'est complètement différent et très éloigné.
Ah oui, comme je vous ai dit, c'est vraiment un autre opéra. C'était comme recommencer autre chose. Ça n'a rien à voir. Et l'ambiance de Macha Makeyev et l'ambiance de Georges Lavelli, c'est vraiment deux mondes différents. Alors, je sais pas s'il y en a un qui est plus véridique que l'autre. J'en sais rien, mais c'est très différent. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est de refaire le même opéra, mais d'une façon totalement différente. Et ce que je voulais dire aussi, vous n'avez pas parlé des danseurs qui sont très présents dans cet opéra.
Parce que je crois que Georges Lavelli a voulu en faire un grand spectacle autour de la danse aussi, d'une certaine façon, un grand bal.
C'est-à-dire que quand je travaille sur un opéra, je note mes idées, les choses que je veux. Je veux dire, si je n'ai pas ça dans ma tête, je ne peux pas le demander. Ici, quand vous voyez le dispositif scénique, c'est très simple, mais c'est l'espace vide.
Ouais.
C'est comme une... On peut dire maintenant qu'on a changé les sols à propos des changements, que c'est une salle de bal.
Voilà, c'est
quelque
ça.
Part.
Avec plein
salle
de portes.
Salle de bal avec 10 portes.
Voilà.
Donc, et vous pouvez pas savoir ce qu'il y a derrière.
Ouais.
Il y a des gens qui rentrent, des gens qui
et ça,
rentrent.
Ça, c'est le vaudeville.
Il y a les têtes qui on voit, et puis on voit la foule qui rentre.
Ouais.
Donc, c'est un endroit qui change,
ouais.
qui change d'après l'utilisation de ces lieux. Ça, ça me plaît parce que j'aime l'espace vide. Je sais que c'est plus difficile, même pour les acteurs dramatiques, de jouer dans le vide, parce qu'il y a une culture naturaliste, d'ailleurs, qui s'est faite dans les théâtres. Et que moi, je n'accepte pas. Je préfère l'imaginaire.
Une dernière question, Georges Lavelli, puis après, on va vous laisser retourner au dernier réglage. Vous êtes presque fait connaître, si j'ose dire, avec Gombrowicz et une œuvre qui s'appelait Opérette, il y a déjà maintenant fort longtemps.
Oui.
Par ailleurs, l'opérette, elle a été finalement, somme toute, très peu présente dans votre carrière de metteur en scène. Il y a un petit Orphée aux Enfers. Il y a La Veuve Joyeuse, mais vous nous avez dit que ce n'était pas une opérette. Mais c'est un genre qui vous a... pas attiré ou simplement l'occasion ne s'est pas présentée?
Non, il y a deux choses. Mais l'opérette de Gombrowicz que j'ai montée en allemand, je l'ai créée quand j'étais directeur de mon théâtre de la Colline.
Oui.
Ça a été créé là aussi. Mais là, c'était pas en allemand. C'était évidemment, la pièce avait été écrite en polonais.
Polonais, bien sûr.
Mais c'est pas une opérette.
Je sais bien.
C'était pour commencer.
Néanmoins, lui, ce titre est stylé.
Mais lui, il demandait.
Gombrowicz.
Oui. Il dit, il faut que je sois gay, il faut que je cherche au Feinberg, les choses comme ça, et pas monsieur un tel ou un tel dont vous parlez, que ça, ils sont des modernes, ils ne connaissent pas l'opérette, etc. Alors finalement, cette version d'opérette, qui n'est pas une opérette, c'était une situation en même temps sociale, politique, et aussi un chant à la nudité, à la jeunesse et à la nudité.
Oui.
Alors, lui, il voulait que tout soit gay, que tout soit... Les versions que j'avais faites n'étaient pas dans cet esprit. C'était très fort, très dramatique peut-être. Et ça m'a fait réfléchir. Et quand j'étais à la Colline, j'ai monté une opérette que Gombrowicz n'a pas vue parce qu'il était mort. Mais qui était dans l'esprit peut-être plus proche de ce qu'il
avait
voulu.
Et merci beaucoup, Georges Lavelli, d'être passé nous voir pour cet entretien avec Véronique Jans. Vous allez vous retrouver ce soir donc pour la première de cette Veuve Joyeuse. Véronique, encore
oui,
un
juste
mot.
Juste une chose, moi je voulais dire que je ne danse pas, mais venez voir le cancan. C'est impressionnant, ce cancan
elle a raison.
De la fin.
Elle a raison.
C'est incroyable. Ces filles sont vraiment géniales. Tous ces danseurs ont une énergie, c'est vraiment impressionnant. Et si vous venez pas pour l'opéra, venez voir juste le cancan de la fin. Ça dure 7 minutes et c'est fabuleux, vraiment.
On retrouve maintenant, après la version française, la version allemande originale de cette Veuve Joyeuse. La version allemande, cette fois, donc, de cette merveilleuse veuve joyeuse de Franz Lehár, à découvrir à l'Opéra Bastille, à partir de ce soir, samedi 9 septembre jusqu'au 21 octobre, pour une nouvelle reprise de cette production de Georges Lavelli, mais pour une première avec donc Véronique Gens, qui, j'espère, Véronique Gens va peut-être poursuivre le chemin de l'opérette.
On va voir. Vous savez, ça dépend pas que de moi, hein, ça dépend beaucoup des directeurs d'opéra. Mais moi, j'aime beaucoup ça, ça m'amuse et ça me fait du bien de chanter des choses comme ça. C'est vrai que ça me change de mes drames permanents. Donc,
mais vous auriez des envies précises dans The Man ? Du Offenbach encore ?
Oui.
Du viennois, de
voilà,
autre chose.
Voilà, des choses comme ça, des choses, voilà, du geste de Gerold Stein, pourquoi pas, ou des choses, oui, pourquoi pas, on va
et vous
voir.
Qui êtes agrégé d'anglais, la comédie musicale, vous attirez ou
ça,
pas ?
Ça, c'est autre chose.
C'est très à la mode dans les maisons d'opéra aujourd'hui de donner des grandes comédies musicales.
Ça,
classiques.
C'est autre chose. Je ne sais pas si je serais capable de faire, c'est quand même une autre façon de chanter. Hein. L'opérette, oui. On reste quand même dans quelque chose de très classique, mais la comédie musicale, c'est une autre façon, ouais, beaucoup plus jazzy, beaucoup plus, ouais. Je ne suis pas sûre que je serais capable de faire ça. Mais bon, pourquoi pas, peut voir.
la piste est ouverte.
Voilà.
En tout cas, Véronique Gens, ce que je sais par contre, c'est que vous allez poursuivre avec Hervé Niquet cette merveilleuse aventure que j'évoquais au début de notre entretien, redécouverte d'air d'opéra français avec le concours du Palazzetto Bruzane. Il y a un volume 2 qui va voir
oui,
le jour.
Oui, c'est encore en train de se mettre en place, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Alexandra Dvicky a déjà trouvé des tonnes de musique, il faut qu'on lise ça ensemble.
Alors,
qu'on
comment
regarde.
Ça se passe. Voilà, il vous apporte des partitions,
on a trouvé un thème.
Vous mettez au piano.
Il faut d'abord trouver un thème parce qu'il y a tellement de choses. Voilà. Ouais. On ne peut pas le dire là maintenant, c'est un peu trop tôt, je crois, mais on a trouvé un thème, exactement comme on avait trouvé ce thème des visions qui était très, très spécial de
pour
cette
le
époque.
Premier volume,
voilà.
Oui.
Et ensuite, on lit de la musique ensemble, on cherche.
Vous dites ça ne me va pas.
Ou bien ça rentre pas trop dans les. Ou bien ça, l'orchestre est trop gros, on n'a pas les moyens. Enfin, parce qu'il y a aussi qui est très important. C'est, les orchestres à cette époque étaient énorme. Et donc, il y a toujours un cinquième corps, une deuxième harpe, enfin, des choses qui sont pas dans les orchestres habituels, classiques, si je peux dire. Donc, c'est aussi un budget énorme, quoi. C'est pour ça qu'on fait ça aussi avec un orchestre comme l'orchestre de la radio allemande à Munich.
Mais qui s'est très bien fondu, j'ai envie de dire, dans cette couleur française.
Ouais.
Moi, c'est ce que j'ai apprécié.
Oui, mais ils avaient envie. Et puis, Hervé est très bon pédagogue et il connaît tellement bien cette musique qu'il trouvait les mots pour leur expliquer. Ils étaient au début un petit peu en se disant, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ils se sont mis dans le truc et il y avait vraiment une bonne ambiance et tout le monde avait envie de faire bien et on découvrait tous ensemble cette musique, c'était vraiment sympa ce disque. Ouais.
En tout cas, vous aimez bien les thèmes et les séries puisqu'il y aura donc ce volume 2 avec un sujet que vous ne nous avez pas encore dévoilé et puis il y a les tragédiennes, volume 1, volume 2, volume 3, je ne sais pas s'il y aura un 4.
Mais ça c'était vraiment un peu aussi le hasard.
Avec Christophe Rousset.
Au départ, on n'était pas parti pour faire 3 volumes du tout, on devait faire ce volume et c'était pour
c'était
moi une façon...
C'était plutôt baroque le premier,
voilà,
hein, Lully Rameau.
Voilà, c'était pour moi une façon de boucler la boucle de mon passage dans cette musique baroque que j'avais décidé de chanter moins, hein, puisque ma voix était moins adaptée à ce répertoire aussi. Et puis ça s'est tellement bien passé qu'on nous a demandé un deuxième volume, et puis un troisième, et puis malheureusement je pouvais pas emmener Christophe dans les choses encore plus tardives, parce que non seulement ces musiciens, bon, il faut trouver les instruments d'époque, il faut trouver vraiment les instruments qui correspondent à cette musique-là, mais c'est surtout, on y revient toujours, à cause d'un problème de budget, si on rajoutait des musiciens supplémentaires au talent lyrique, ça devenait un orchestre énorme, et c'était juste hors de prix, voilà, c'est malheureusement des choses comme ça qui font qu'on est obligé d'aller voir ailleurs et de travailler avec un autre partenariat. Mais j'aurais beaucoup aimé faire ces disques avec les talents lyriques et avec Christophe aussi. Bon, voilà, la vie en a décidé autrement. Mais on a d'autres projets avec Christophe et on s'entend vraiment bien. Et comme je dis toujours, Christophe et Hervé, moi je signe toujours. Hein, c'est vraiment...
Et à propos d'auteurs tragiques et d'œuvres surdimensionnées, il y a Berlioz qui vous est cher aussi.
Oui, j'aime beaucoup Berlioz.
Vous l'avez retrouvé régulièrement au fil de votre parcours.
J'ai chanté beaucoup Les Nuits d'été, bon, qui est vraiment quelque chose de très spécial dans Berlioz. Justement, c'est pas la grosse cavalerie comme on a l'habitude d'entendre, mais aussi beaucoup les deux cantates de Rome. Vous savez qu'il a présenté le prix de Rome à plusieurs reprises. D'ailleurs, il l'a jamais eu, je crois, avec cette cantate qui s'appelle Herminie et ensuite La mort de Cléopâtre, qui sont des cantates que je chante beaucoup aussi.
Et Gardiner, vous avez proposé très tôt de faire Les Troyens aussi, non?
C'était un peu tôt, j'étais pas vraiment prête à l'époque, c'était... Voilà, je l'ai pas fait, j'ai bien fait, j'en sais rien. En tout cas, j'étais pas prête et maintenant j'aimerais bien le chanter. Oui, je suis prête maintenant.
En disque, vous l'avez fait, donc au moins l'air de Didon.
Voilà, au moins l'air de Didon. Mais c'est tellement monumental de monter Les Troyens que ça se fait pas très souvent et on verra si une autre occasion se présente, j'espère.
Oh,
Les Troyens, Véronique Jans avec les talents lyriques et Christophe Rousset, donc dans cette série de grandes tragédiennes. Bah écoutez, on est très heureux en tout cas d'avoir été avec vous ce matin, Véronique Jans, à quelques heures de la première de La Veuve Joyeuse. Vous nous disiez tout à l'heure que quand vous étiez toute jeune chanteuse aux Arts Florissants, vous n'aviez aucune idée de la carrière qu'allait se dessiner ensuite. Voilà, aujourd'hui, vous avez fait beaucoup, beaucoup de rôles, beaucoup de disques, la carrière a pris beaucoup d'ampleur. Est-ce que vous pensez maintenant à ce qu'elle va devenir, votre carrière, dans les années qui viennent?
Non, je ne suis pas du genre à me projeter comme ça. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai encore beaucoup de choses à faire, j'ai envie de faire encore beaucoup de choses. Tant que ma voix sera là et tant qu'elle aura envie de m'emmener vers des choses un petit peu inconnues, pourquoi pas? J'aime bien découvrir des choses et je m'ennuie quand je reste toujours dans les mêmes choses. J'ai besoin d'essayer. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de chanteurs qui sont très rassurés en chantant tout le temps les mêmes choses. Ou j'aime essayer des choses nouvelles. Alors, quelquefois, ça marche. Quelquefois, ça marche moins bien, mais j'aurais au moins essayé.
Richard Strauss, par exemple, ça, quelque chose Richard Strauss, qui pourrait venir plus dans les années qui viennent.
Oui, j'aimerais bien. Bon, mais mon gros handicap, c'est que je suis française et qu'on n'aime pas confier cette musique à des Français. Oui, c'est difficile dans les théâtres.
Vous avez dit que ça ne les dérangeait pas de donner les rôles français à des chanteurs qui ne savaient pas chanter le français, mais pour l'allemand, ils sont beaucoup plus pointilleux.
Ah oui, je ne me fais pas des amis quand je dis ça, mais c'est vrai. Combien de vous avez entendu de dialogues des Carmélites où vous n'avez pas compris un mot parce qu'il n'y a pas un Français dans la distribution. Mais quand on fait du Strauss ou des choses comme ça, là, on aime bien avoir des Allemands. On a l'impression que c'est plus rassurant.
Et l'enseignement, la transmission, c'est quelque chose?
Oui, j'enseigne déjà pas mal. Je donne des masterclass et je trouve ça passionnant. Et j'ai envie d'aider tous ces jeunes chanteurs, toutes ces jeunes chanteuses qui en veulent et qui ont envie et qui sont prêts à écouter tellement de choses. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir tant de choses que ça à leur transmettre parce que ma carrière a pas été si énorme. Mais j'aime bien leur donner des petits conseils et tout simplement les rassurer parce qu'ils ont vraiment besoin d'être rassurés. Le métier est dur. Comme je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de chanteurs, des très bons chanteurs qui font ce métier et c'est difficile de faire sa place maintenant dans ce métier, vraiment.
Vous restez, Véronique Jans, résolument provinciale? Nantaise, d'adoption.
Non, mais ne soyez pas péjoratif, s'il vous
c'est
plaît.
C'est pas péjoratif, c'est un joli mot.
Non, mais c'est vrai que j'ai vécu beaucoup à Paris et depuis que j'ai quitté Paris, la vie est beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. C'est plus compliqué pour les avions, pour les voyages, comme vous savez, je voyage beaucoup. Ouais. Mais je sais que ma famille est là-bas, qui sont au calme, tranquillement. Nantes est une ville agréable, c'est pas très grand.
C'est pour ça que ça n'était pas du tout péjoratif.
Voilà, on peut faire tout à vélo, la mer est pas loin, quand il fait beau, on va faire un tour. C'est vraiment une qualité de vie vraiment très précieuse pour moi.
Bah écoutez, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
On va se quitter, alors puisqu'on parlait beaucoup quand même de musique légère, on va se quitter avec un extrait du final d'Orphée aux Enfers, direction Marc Minkowski, alors avec toute la troupe de l'époque. On entend Jennifer Smith, Patricia Petitbon, vous êtes la quatrième, je crois.
Ah, je sais pas, j'ai oublié honnêtement.
Dans le rôle de Vénus, chère voilà. Véronique Jans, merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne veuve joyeuse.
Merci à vous d'être venu jusqu'ici, merci.
Ne pas se ne joue pas. Ah, 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 ne manque la patte, non, on te connaît, je pas.
Ah, 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 ah.
Ces métamorphoses, c'est que tu te trouves si laid que pour te faire aimer tu n'oses te montrer telle que l'on t'a fait. Ne prends plus la patte, la honte ne dévasse j'y pas. Ne prends plus la patte, la honte ne connaît j'y pas.
Et voilà le rondo des métamorphoses extraits du final du premier acte d'Orphée aux Enfers d'Offenbach sous la direction de Marc Minkowski avec successivement les voix de Virginie Pochon, Jennifer Smith, Patricia Petitbon, Véronique Jean, et pour finir Jean-Paul Fouché-Court, l'enregistrement de l'Opéra de Lyon de ce grand Offenbach avec donc Véronique Jean qui était mon invitée ce matin et que vous pouvez retrouver à l'Opéra Bastille à partir de ce soir jusqu'au 21 octobre pour 15 représentations de La Veuve Joyeuse. Elle sera aux côtés du grand Thomas Hampson, autre invité, j'espère, futur de cette émission, avec aussi Stephen Costello, Valentina Nafornita, Franck Le Guérinel et beaucoup d'autres. Direction musicale de Jacob Roussa. Et c'est donc la mise en scène de Georges Lavelli de cette Veuve Joyeuse reprise à l'Opéra Bastille.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Mais nous avons encore une bonne vingtaine de minutes à passer ensemble et je vous propose maintenant mon petit programme personnel de musique légère.
Thank you.
Et voilà un étrange mélange de musique presque symphonique et d'harmonica. C'était Richard Eman, un grand chef d'orchestre de musique légère qui était aussi un merveilleux harmoniciste, mort en 2014. Extrait d'ailleurs d'un excellent album de notre ami Serge Elaïc, La magie des grands orchestres internationaux, volume 2. Serge qui sera avec nous à la fin du mois. Et puis je voudrais aussi répondre à une auditrice qui m'a réclamé une chanson japonaise de l'après-guerre intitulée Je suis conducteur de train sur la ligne de Kyoto. Ça s'appelle plus précisément Tokyo Yoko Osaka. Et c'est une chanson effectivement japonaise que vous avez passée il y a quelques années, une petite rareté qui montre le goût des Japonais pour les rythmes américains dans cette période de l'immédiate après-guerre.
から大阪行き123と特別急行列車発車いたします。
僕は特急の機関手で可愛い娘が駅ごとにいるけど3分停車では飽きする暇さえありません。
東京京都大阪
冬の町恋の町海一お宮の昔から愛し恋しの二人連れ闇のトンネル通りゃんせ
東京京都大阪ポポ。
右に見えるは富士の山、左に見えるは駿河湾、中を取り持つ展望車、沼津食わずの三等車。
東京京都大阪ポポ。
ハーモニカ娘は浜松でドレミファソラシドベニの後、これに見とれて浜名湖のチュイとウナギに笑われる。
東京京都大阪ポポ。
皆様お子様方のお楽しみ、浜松土産ハーモニカはいかがでございますか。
名古屋にお城あるきゃも、金のシャチホコあるきゃも、森口大根細長く彼女の愛用に似るきゃも。
東京京都大阪
京都だらりの舞妓はん、ぴょんぴょうごっぽんと上、ぽんと背中をたたかれて、バスでやしたら宿末。
東京京都大阪ポポ。
ネオンサインの大阪は震災橋から御堂筋、儲かり真っ赤と聞かれてもほんとほんまに飽きまへん。
東京京都大阪ポポ。
Voilà, j'espère avoir répondu à la demande de Marie-Aline Béradé avec cette chanson Tokyo Yoko Osaka chantée par Isaya Morishige, un témoignage du goût musical japonais de l'après-guerre. Et sans transition, un petit concertino d'Arthur Honegger aux frontières de la musique légère. On sait qu'Honegger aimait l'opérette, aimait le jazz. Là, il mélange toutes ses influences avec son art de symphoniste dans ce concertino pour piano et orchestre par Jean-Yves Thibaudet et l'Orchestre de Montréal sous la direction de Charles Dutoit.
Thank you. Thank you.
Jean-Yves Thibaudet au piano, l'Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Charles Dutoit, dans ce merveilleux concertino pour piano et orchestre d'Arthur Honegger. Arthur Honegger qu'on découvre ici, évidemment, dans une couleur très différente de celle de ses grandes symphonies. Et puis, pour terminer cette matinée, je vous propose de retrouver Ninon Valin. On l'a évoqué tout à l'heure avec mon invité Véronique Jans à propos de La Veuve Joyeuse, cette très grande artiste que Debussy adorait. Elle a laissé heureusement beaucoup d'enregistrements, y compris des œuvres de Reynaldo Hahn, qui était aussi un de ses proches amis. Ils ont fait beaucoup de tournées ensemble et ils ont enregistré ensemble cette œuvre très belle et très mélancolique de Reynaldo qui s'intitule La dernière valse, extraite d'une suite théâtrale qui s'appelait Une revue. On entend cette dernière valse donc dans la version avec orchestre chantée par Ninon Valin.
Tu bois des larmes.
Ninon Valin en 1937 avec l'orchestre et les chœurs dirigés par Marcel Cariven dans cette dernière valse de Reynaldo Hahn sur un livret de Maurice Donnet et Henri Duvernois qui sont donc partagés les paroles. Un très beau document que je voulais vous proposer d'entendre pour terminer notre samedi matin. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique François Davy avec Déborah Dagobert, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, je serai en direct et en public à la Fête de l'Humanité. Nous raconterons la Fête de l'Huma en chanson. Il y a beaucoup à dire depuis le Front Populaire jusqu'à nos jours. C'est en public, vous pouvez venir nombreux à la Fête de l'Huma. Donc c'est samedi prochain.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.